Bonjour à chacune et chacun. C'est un plaisir pour moi et Priscilla et Eliana qui entrent de bonnes mains là, d'être avec vous encore aujourd'hui. Merci aussi pour tous ces témoignages qui sont encourageants. On voit l'œuvre de Dieu au quotidien et ça c'est ce pourquoi nous croyons, c'est que Dieu agit. Il n'est pas juste un Dieu théorique ou une idée qu'on a. Notre quotidien est touché, transformé par sa présence et par son action. Et donc merci encore pour ces témoignages qui nous rappellent l'œuvre vivante du Seigneur. Alors ce texte est un texte qui, je pense, aura toujours besoin d'être prêché en cette période de l'immédiateté, n'est-ce pas ? Quand j'imagine le nombre d'infos qu'on doit gérer maintenant, avec toutes les médias, les Twitter, les Facebook, etc. Je me rappelle quand j'étais dans mon entreprise, on échangeait, on avait nous aussi des réseaux où on déplaçait les fichiers, on s'envoyait des mails, t'envoyais je sais pas combien de mails, tu partais une semaine en vacances, t'avais toujours peur du nombre de mails que t'allais avoir en revenant. Et à chaque fois, je regardais mes chefs, certains de mes chefs qui étaient là depuis 20 ans ou 30 ans, et je me disais, mais comment ils faisaient sans Internet ? Non, mais franchement. Et pire encore, comment ils faisaient sans ordinateur ? Parce qu'il fut un temps, les amis, où l'ordinateur n'existait pas. Vous imaginez ? On a du mal à imaginer. Je parle même pas du portable. Vous savez que moi, je suis d'une génération où le portable n'existait pas encore. Hein. En tout cas, que c'était un luxe de certaines personnes. C'était des gros pavés, des briques comme on les appelait. Il fut un temps où c'était comme ça. Mais aujourd'hui, c'est très très difficile. Je pars au travail, à l'église. Je vois que j'ai oublié mon portable. Je suis prêt à faire demi-tour. Il faut que je revienne. J'ai oublié mon portable. Et donc voilà, donc il y a des choses comme ça où l'info est immédiate. J'ai dû désactiver pas mal de choses parce que je me rappelle que si je suis en discussion avec quelqu'un, tiens, petit WhatsApp, je regarde juste. Ah non, c'est bon. C'est pas pour moi. Donc très très connecté. Donc des milliers d'informations. On a accès à plein de choses et il est bon de se rappeler de la meilleure part. L'essentiel, le plus important, la priorité, ce que nous devons mettre en premier avant toute chose. Et surtout pour nous chrétiens, et je sais que la majorité d'entre vous, être des chrétiens engagés. Vous voyez pas la vie chrétienne comme une option ou quelque chose que je fais. Vous voulez que la vie chrétienne soit quelque chose qui investissent votre vie, vous vous mettez en action, certains partent en Israël dans ce sujet-là, d'autres organisent des spectacles qui leur prennent toute leur journée, leur soirée, voire leur nuit. Mais le Seigneur veut nous rappeler que même dans l'action chrétienne, nous ne devons pas perdre de vue l'essentiel. Et je pense que c'est un texte que vous avez déjà entendu plusieurs fois, mais j'aimerais donc juste rappeler rapidement l'essentiel de ce texte, que vous connaissez déjà. Mais aller un petit peu plus loin et aller au-delà, je dirais, du texte, en restant toujours biblique, hein, mais en essayant de voir ensemble. Donc tout d'abord, prendre conscience de ce que Jésus nous propose là. Deuxièmement, nous rappeler du privilège que vous et moi, nous avons dans cette rencontre et dans cet échange avec lui. Et terminer avec quelques exhortations très pratiques qui vont nous aider à prioriser de la bonne façon notre vie et notre temps. Un texte vraiment encourageant dans ce Luc chapitre 10, où Marthe et Marie, deux sœurs, quelqu'un a fait un livre qui disait « Être Marie dans un monde de Marthe ». Donc notre environnement, c'est plutôt pousse, vas-y, agis à fond. Et là, on voit une situation où quelqu'un est appelé à prendre du temps. Je vous relis juste le texte parce qu'il est vraiment interpellant. Rien que l'histoire en elle-même, je trouve qu'elle est très très claire et elle nous pousse tout de suite à l'essentiel. Jésus en chemin, verset 38, Marthe l'accueille dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit au pied de Jésus. Écoutez ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service, les mots sont bien choisis, elle survint, c'est-à-dire elle déboule dans la pièce, et dit, avec toute la douceur du monde, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de venir m'aider. » Donc Jésus, toi, qui es en train de parler, je ne sais pas ce que tu dis, mais en tout cas, tu as enlevé ma sœur de son service premier. Et dans la culture malgache, on comprend que dans beaucoup de mariages, vous allez voir, c'est beaucoup les femmes qui vont servir, donc c'est normal que les femmes servent. Et dans cette culture-là, qui était il y a 2000 ans, c'était encore plus fort, encore plus fort. Et on comprend pas comment une femme s'installe au pied d'un enseignant avec les autres hommes. Remets-la à sa place. C'est un peu ce que Marthe demande à Jésus de faire. Et Jésus, sa réponse est vraiment interpellante. Donc, au milieu d'un contexte qui est normal, Marthe est dans le service, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de bon. En plus, elle accueille Jésus, c'est elle qui a dit « Viens, Jésus, mangez chez nous ». C'est un bon cœur. Elle est en action. Et je pense que beaucoup de nos sœurs aiment accueillir. Ma femme aime beaucoup accueillir avant que des invités viennent. C'est l'action dans la maison. Il faut que tout soit nickel. Et donc, je comprends tout à fait Marthe ici. Et donc, elle veut faire un accueil digne de son invité. Et c'est quelque chose de bon. Dieu ne remet pas en cause la notion d'agir pour lui. Parce que si on regarde quelques chapitres auparavant, quelques versets auparavant, c'est la parabole du bon samaritain. La parabole du samaritain, c'est bien quelqu'un qui est en action. Hein. C'est bien quelqu'un qui est en action. Il s'arrête pour aider un blessé, il le soigne, il le met sur sa monture, il l'amène à une auberge, il paye pour lui, il revient derrière. L'action, c'est quelque chose que Dieu honore. Et donc, pour les chrétiens en action, qui aiment accueillir, qui aiment servir, c'est quelque chose de bon. Mais avant même notre action, avant même nos actions, nos ministères, nos services, Dieu nous rappelle qu'il y a quelque chose de encore au-dessus. Et il dit, si on rate ça, on rate le meilleur. Jésus lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites. C'est violent hein, quand même. Hein. Vous voyez un peu s'agiter là. Faire du vent quoi. Tu t'agites pour beaucoup. Presque beaucoup de choses secondaires. Et on se dit, mais attends, mais Jésus, comment tu vas manger s'il n'y a pas Marthe? Hein? Faut quand même que quelqu'un fasse à manger quand même, Jésus. Oh. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part et cela ne lui sera pas enlevé. Vous le savez. Vous le connaissez, ces versets, en tout cas, j'espère. Deux attitudes. Une d'humilité et d'écoute. L'autre d'action, mais finalement, qui s'énerve derrière. Parce qu'elle a oublié... Qu'est-ce qu'elle a oublié? Elle a oublié qui était devant elle. Et c'est ce que j'aimerais qu'on puisse voir ensemble. Nous rappeler, vous et moi, qui est celui qui nous appelle à prendre le temps avec lui. Et quel est notre privilège derrière ça? Jésus-Christ est celui qui connaît ce dont nous avons besoin. Avant même que nous puissions le servir, lui, il nous a déjà servi. Avant même que nous puissions lui donner quoi que ce soit, lui, il nous a déjà tout donné. Avant même que nous puissions l'aimer, lui, il nous a déjà aimés. La question, c'est, avons-nous reçu tout cela? Avons-nous reçu cet amour? Avons-nous reçu cette grâce? Comme Marie, prenons le temps d'être à son écoute. S'asseoir, poser tranquillement à son écoute. Avant même de servir Jésus, laissons-nous servir par Jésus. Parce que ça commence comme ça, l'évangile. C'est Dieu qui fait un pas vers nous, qui nous relève avant même que nous puissions nous mettre en action. Sinon, on va tomber dans ce qu'on appelle le légalisme, faire des actions pour Dieu pour gagner son approbation. Dieu agit pour vous et pour moi. Et là, première exhortation, c'est vraiment de dire, quel que soit votre service, votre ministère, votre action, vos bonnes actions, recevez de Dieu. que ce soit des paroles de sa part, que ce soit son enseignement. Et j'aimerais donner un exemple très concret de la parole, c'est celui de Timothée. Timothée, qui était un peu le fils spirituel de l'apôtre Paul, en particulier lorsque Paul est en prison et qu'il va mourir, c'est à Timothée qu'il écrit. Et il va lui donner un peu comme un dernier testament, la deuxième épître à Timothée. Parce qu'il veut vraiment que Timothée puisse être ce proclamateur de l'évangile qui n'a pas peur face à la persécution. Vous imaginez, persécution farouche, et il dit à Timothée, c'est à toi de prendre le flambeau, moi je suis en prison, je vais sûrement mourir, et d'ailleurs il va mourir quelque temps après, à toi de prendre le flambeau. Donc, soldat, combat, c'est ce qu'il lui dit, hein, il utilise le terme de soldat, d'athlète, d'ouvrier, etc. Mais en 2 Timothée chapitre 2, au premier verset, il lui dira, puise tes forces dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et après, il lui parlera du combat. Mais avant, il veut d'abord que Timothée sache où il va trouver sa force. Et donc, mon encouragement, mon exhortation, c'est de nous dire, ne servez jamais sans puiser vos forces en Jésus. Laissez cet Esprit Saint vous conduire, nous encourager, vous édifier, pour pouvoir servir votre Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31 dira, « Quoi que vous fassiez en parole à l'acte, faites-le de tout cœur comme pour le Seigneur. » Comment faire de tout cœur comme pour le Seigneur, si ce n'est conduit par son Esprit ? Galates chapitre 5, il nous dira, « Marchez donc par l'Esprit, verset 16, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Et malheureusement, les désirs de la chair, on peut les accomplir aussi dans le service, hein. Vous savez, on peut servir parfois le Seigneur, et les désirs de la chair, il dira, c'est la colère, c'est l'animosité, c'est la rancœur, c'est la... Ben, on peut servir en disant, oh là là, c'est à que moi encore aujourd'hui qui fait le ménage, là. Vraiment, les autres, ils sont pas là, toujours les mêmes, etc. Comment ça, il y a personne inscrit sur le tableau des enfants? Nous, on avait un tableau, il fallait s'inscrire, tu inscrivais quand est-ce que tu voulais faire. Si t'avais personne et que t'étais le seul, oh, là, encore, je serais tout seul à le faire. Puisez vos forces pour que même notre service pour le Seigneur soit fait dans le bon état d'esprit. La meilleure part, c'est la meilleure part ici. On sait que le Seigneur parle de cette parole que nous voulons, parce que Marie, finalement, elle était à l'écoute de Jésus, elle était à l'écoute de cette parole, et évidemment, et je sais que dans cette église, on valorise énormément la doctrine, on veut mettre en place, au centre, la parole de Dieu, la parole prêchée, la parole sainte, qui enracine l'église et les chrétiens. Et ça, c'est bon, et il faut continuer à creuser cela, et j'encourage tous ceux et toutes celles qui n'ont pas une méditation quotidienne de la parole, de viser cela, de prendre le temps, de s'intéresser aussi d'acheter des livres de théologie, des livres d'édification qui vous permettent de mieux comprendre et mieux connaître la parole de Dieu, mieux connaître les concepts de la parole de Dieu. Tout cela est possible et grandissons dans cet échange-là. Mais au-delà de la connaissance de la parole de Dieu, ce que j'aime avec Marie, et je pense que Dieu, que Christ nous encourage dans cet échange-là, c'est la connaissance de Dieu lui-même. Cette relation que je veux entretenir avec une personne. Et ça, pour moi, c'est la puissance de la foi chrétienne. Nous parlons d'une rencontre. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, ton Fils. Lorsqu'on était en cours d'introduction à l'herméneutique, donc à l'interprétation de la parole de Dieu, notre prof nous met un grand doute quant à la véracité et l'exactitude de la Bible. Il dit, vous savez comment ça se passe? Donc, on va dans une grotte, on trouve différents morceaux de parchemin et on les prend, on les récupère et on commence à les mettre sur des grandes tables et on dit, bah, tiens, ça doit être avec ça. Et on fait un puzzle. Et ça va être avec grâce à... Donc du grec et de l'hébreu et un peu d'araméen. Et donc on les pose et tout. Et puis on dit, non, tiens, il y a un trou, peut-être que là. Et ensuite, on va commencer à essayer de traduire. Et là, on dit que c'est ça la vérité. inspiré de Dieu. Et là, je dis, mais mince, je suis en cours de théologie ou pas? Il nous met le doute, là, ou... Et vraiment, il m'a mis le doute. Il m'a mis le doute. Et il dit, mais c'est quoi qui fait votre foi? C'est que vous connaissez l'auteur de ces écrits. Et là, waouh, il m'a enlevé le doute. Cet auteur s'est révélé en une personne, Jésus-Christ. C'est lui qui a inspiré toutes ces lettres et qui a fait qu'aujourd'hui, quand on lit la parole, on ne lit pas juste ses écrits, on veut être en communion avec lui. Et c'est ça qu'il y a de plus beau dans la marche avec Jésus-Christ. Et avons-nous conscience que c'est le Créateur du ciel et de la terre qui est venu comme un homme, un enfant d'abord, puis un homme, se révéler à travers, pour nous, à travers une forme humaine, qui a payé de sa vie, qui a souffert les mêmes souffrances que vous et moi, toutes les souffrances qu'un homme et qu'une femme pouvaient souffrir ici, il l'a souffert. Solitude, harassement, fatigue, souffrance physique, abandon, mort, être frappé, moqué, se retrouver seul. Il a souffert tout ça pour incarner l'amour de Jésus-Christ dans l'amour de Dieu, dans notre chair, mais pour créer aussi ce pont entre vous et votre Créateur. Donc, Jésus est venu pour créer ce pont, pour que vous et moi, on soit en relation parfaite avec Dieu, mais cela a eu un coût. Sommes-nous conscients de cela? Sommes-nous conscients du prix qui a été payé et du privilège que cela a donné? Si le prix a été aussi fort, c'est que le bénéfice que cela ouvrait est tellement merveilleux. On l'a entendu tout à l'heure, une œuvre de Dieu formidable, un Dieu qui répond à des prières, un Dieu qui transforme des vies, un Dieu qui, au milieu du froid en Belgique, auprès des policiers qui sont fermés, donne la joie quand même. Un Dieu formidable. Mais prenons-nous le temps de nous laisser ressourcer et de le rencontrer. Et c'est vraiment mon encouragement. C'est mettons cela en premier, pas en option, pas parfois, mais Seigneur, la première chose que je veux faire dans ma journée, dans ma vie, c'est chercher ta face et t'écouter. Et j'aimerais même aller plus loin pour l'église de Saint-Maur, c'est que en tant qu'église, vous puissiez faire ça comme votre priorité. Prendre ce temps. Alors très concrètement, comment ça peut se passer? Ça peut être des temps longs de prière en église. On se dit, notre priorité, c'est vraiment de nous approcher de notre Dieu. Ça peut être des temps d'écoute longs de sa parole. Ça peut être des semaines, des jours de jeûne et prière. Peut-être que vous le faites déjà. Mais vraiment dire, on veut prioriser la recherche de notre Seigneur avant même les activités pour lui. Quand on a dû gérer des problèmes de distribution de tables ou de distribution de soutien aux veuves dans l'église primitive, les apôtres ont dit on peut pas prendre trop de temps pour ça, il faut qu'on délègue ça à quelqu'un, parce que nous on veut se consacrer, c'est vraiment fort hein, cette phrase, à la prédication de la parole et la prière. Et la prière. On l'aurait compris, la prédication de la parole. Ouais, c'est votre rôle, allez-y. Mais la prière, on veut en faire une priorité. On préfère, dans leur cas, vraiment prendre du temps dans la prière que de gérer nous-mêmes toute cette coordination qui était nécessaire, qui était importante, qui a rajouté la paix dans l'Église, mais cette coordination du soutien des veuves. Parce que la prière passe avant même ces actions pour eux. Et donc, voilà pour nous, comment mettre la prière en priorité et l'écoute de notre Seigneur. Comment venir à lui? J'aimerais dire qu'avant de faire ça, il faut déjà être convaincu que Dieu veut envahir votre vie, dans le bon sens du terme, mais envahir quand même. Il aimerait que nous soyons saturés de lui. Il aimerait que nous soyons pleins, remplis de lui. Que nos pensées soient en premier pour lui. Certains ont déjà été amoureux dans cette salle, Et surtout dans les jeunesses, hein, quand on est au lycée ou au collège, voire en primaire, hein, là, l'amour, oh là là, ça nous prend, et puis on pense qu'à ça, et puis on voit la personne, et on est saturé un petit peu. Mais Dieu veut que nous puissions vraiment occuper nos pensées et notre cœur de sa personne, que toute notre vie soit à lui. Et peut-être que cet après-midi, certains n'ont pas consacré leur vie à Dieu. Ils ont accepté le salut du Seigneur. Merci Seigneur, tu m'as sauvé. Ils sont contents d'être pardonnés. Ils ont reconnu qu'ils étaient pécheurs. Mais est-ce que Dieu est votre tout? Est-ce que Dieu est celui qui fait votre vie? Le fondement absolu de votre vie. C'est vraiment ce que Dieu veut que nous puissions comprendre. Il veut être notre tout. Il veut être notre priorité en toutes circonstances. Tu choisis un travail, ce qui est quelque chose de très important, ou même avant, tu choisis des études, le fais-tu pour glorifier Dieu? Attends, les études, ça n'a rien à voir, quoi. Les études, et puis après, oui, je glorifie Dieu. Mais non, mais les études, moi, j'ai quand même une passion pour faire astronaute, donc je vais y aller. Mais si toute ta vie glorifie Dieu, ton choix d'études ne doit-il pas aussi glorifier Dieu? La même chose pour un travail. Comment choisir un travail? Dans quelle démarche choisir un travail? Le faisons-nous pour glorifier Dieu? Là, je le prends quand même parce que vraiment, il est bien payé ce travail. Ça, c'est un bon choix. Dans quelle mesure est-ce que je laisse Dieu dicter, me diriger, m'éclairer sur mes choix de vie importants? Choix d'achat d'une maison. Choix d'une église pour ceux qui cherchent. Choix d'un conjoint. Moi, je veux la conjoint qui me rend heureux et qui me fait rigoler. Voilà. Là, je suis content. Dans quelle mesure ce conjoint qui te fait rigoler et être heureux t'aide à servir Dieu, te rapprocher de Dieu, honorer Dieu? Et c'est là qu'on comprend qu'il est difficile pour un chrétien d'accepter de se marier avec quelqu'un qui n'est pas chrétien. Parce que le couple, c'est quand même quelque chose que tu partages ta vie, tu deviens un. Donc si cette personne-là ne connaît pas Jésus, n'aime pas Jésus, ne comprend pas Jésus, comment tu penses pouvoir bien avancer avec une personne comme ça? C'est pas qu'on n'aime pas cette personne, mais c'est qu'elle ne t'aidera pas à progresser en Jésus. Dans quelle mesure nous posons la question à Dieu? D'autres situations, comment réagir face aux souffrances, et en particulier aux attitudes négatives des autres à notre égard? Nous avons des convictions, nous avons des principes, nous avons une façon de voir les choses. Mais parfois, elles peuvent ne pas être bibliques, mais juste culturelles. Nous posons-nous la question, comment réagir selon la Bible? Un exemple d'attitudes culturelles qui n'ont pas du tout le même écho en fonction des cultures, c'est lorsqu'un invité arrive pour quelques instants, pas pour manger, mais pour un après-midi discuter. Il y a certaines cultures, en particulier certaines personnes en France, elles vont obliger les enfants à descendre ou à venir dire bonjour à l'invité, et ensuite, quand il va partir, à dire au revoir. Donc ça, j'ai certaines, quand je fais des visites, « Les enfants, venez !» Il faut aller dire bonjour, il faut aller dire au revoir. Et eux-mêmes se sentiraient pas bien accueillis s'il y a des enfants dans la maison et qu'on les oblige pas à venir. Il y a d'autres cultures, plutôt dans les îles, on cache les enfants. Non, parce qu'on est entre adultes. Non, mais on est entre adultes. C'est un moment important, il ne faut pas être dérangé. On honore cet invité, donc ils vont être à côté. Donc on va pas se faire déranger. Voilà deux cultures différentes, deux réactions différentes. Certains vont dire « Oh là là, quel drame, ils ont ramené les enfants » et d'autres vont dire « Ils n'ont pas ramené les enfants ». Donc qu'est-ce qui définit vos réactions face aux gens? Est-ce votre culture ou est-ce la parole de Dieu? Et c'est là que quand vous avez un énervement, quand vous vous sentez pris par une attitude qui ne vous plaît pas, scannons notre réflexion en disant « Seigneur, est-ce que ce qui m'agace, c'est juste que c'est culturellement, parce que moi j'ai été éduqué comme ça, ou est-ce que vraiment ta parole définit une règle là-dessus ? » Laissons-nous conduire là-dessus. Et lorsque des gens ont une mauvaise attitude, qui peut-être même est vraiment justifiée, on va dire, oui, là, elle a une mauvaise attitude, un manque de respect, une moquerie, des paroles méchantes, des paroles mauvaises qui sont vraiment condamnables. Est-ce que notre réaction est conduite par la parole de Dieu? Si nous voulons que Dieu soit notre tout, si nous voulons ne pas rater la première part, si nous voulons ne pas nous inquiéter, nous agiter pour beaucoup de choses inutiles, mais saisir la chose essentielle, soyons en écoute de Dieu en toutes circonstances, même en particulier quand nous sommes malmenés. Définissons nos réactions en fonction de ce qu'il veut. Et mon dernier encouragement, c'est vraiment de dire, n'hésitez pas à poser des questions précises à Dieu. Seigneur, cette personne-là m'a parlé comme ça. Elle m'a dit ça, je ne sais pas quoi répondre. Qu'est-ce que je fais? N'hésitez pas. Seigneur, j'ai une situation très délicate au niveau de ma santé. Je ne sais pas quoi faire. Éclaire-moi. Seigneur, cette relation avec cette personne-là me gêne. Comment je vais faire? Dis-moi. Jacques chapitre 1 nous dira, celui qui manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Sans douter, car Dieu est celui qui donne à tous sans faire de reproche, mais qu'il demande avec foi. Croyez que Dieu peut et veut vous répondre. Donc, je ne sais pas ce que vous traversez aujourd'hui, mais est-ce que vous savez là où Dieu veut que vous avanciez pour les prochains jours, les prochaines semaines? Demandez-lui. Soyez convaincus. Qu'est-ce que vous vivez aujourd'hui, que ce soit dans votre travail, dans votre église, dans vos relations, dans votre couple, où on a besoin de ramener Dieu une fois de plus comme directeur et dirigeant de nos réflexions? Posez-lui une question très précise. Seigneur, je ne sais pas quoi faire l'année prochaine. Éclaire-moi. Et derrière, ayons l'attitude de Marie, de nous arrêter, de nous poser à ses pieds et de laisser nous parler. Et alors, ce qui est formidable, c'est qu'en faisant ça, vous vous connectez à la sagesse ultime, au meilleur conseiller, à la meilleure personne qui aurait pu vous guider. Et alors, vous recevez la meilleure réponse qui puisse exister sur cette terre. C'est pas formidable, ça? Quelles que soient les circonstances, vous pouvez vraiment recevoir la meilleure réponse qu'il faut dans votre situation précise. Et ça, c'est juste merveilleux. Et vraiment, c'est encore mon encouragement aussi pour l'église de Saint-Maur. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes au niveau de la recherche d'un pasteur, mais venons à Dieu, absolument. Laissons-le diriger notre église, votre église. Prenons le temps de lui présenter nos circonstances en disant, Seigneur, prochaine étape, éclaire-nous. Qu'est-ce que tu veux que nous vivions? Je prends cet exemple, mais tout autre exemple. Certains pour le ministère, l'organisation de l'Église, les projets de l'Église. Est-ce que c'est le Seigneur qui nous conduit? Écoutons-le et soyons attentifs à sa parole pour fonder notre direction. J'aimerais prier maintenant, mais j'aimerais vraiment vous encourager à mettre le Seigneur en premier en toutes circonstances. Qu'il soit celui qui inspire, qui insuffle tous les domaines de votre vie. Peut-être que certains cet après-midi veulent dire « je dois changer, je veux accepter que maintenant Jésus insuffle tous les domaines de ma vie ». Je pourrais les mentionner, mais déjà votre assurance en l'avenir, laissez-le insuffler. Votre gestion de l'argent, votre gestion du temps, votre gestion des médias, d'Internet, de l'ordinateur, votre relation au travail, votre relation avec votre conjoint, avec vos amis, avec votre église, que ce soit Jésus-Christ qui vous inspire. Prenez ce temps devant lui, laissez-le vous éclairer. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à aller voir un frère, une sœur, en lui parlant de ça et en priant avec lui. Mais surtout, attendez-vous à une réponse. Parfois inattendue, comme cette sœur, situation très délicate, elle avait mal aux oreilles depuis des mois et des mois, et elle est infirmière. Et donc, pose plein de questions, elle comprend pas. Alors vous allez voir, la réponse est vraiment inétonnante. Et elle prie, on prie pour ces circonstances. Elle m'en parle, on dit « Waouh !» Dis « Seigneur, éclaire-la » Elle entend dans un rêve, attention, hein, change de matelas. Bon. Change de matelas. Ok. Bon, ben, Seigneur. Ça vient de toi, ça vient pas de toi. Le lendemain, elle va au travail. Ils vendent des matelas à réduction. Le truc qui arrive presque jamais, quoi. Mais c'est... Bon, elle se dit, bon, ben, ok, trop de circonstances étonnantes. Seigneur, j'achète un matelas. Elle dit ça à son mari. Eh bien, du jour au lendemain, elle avait plus de mal aux oreilles. Alors, explication, acarien, etc., etc., sûrement, allergie ou quoi. Mais c'était assez étonnant. Mais cette démarche de dire, Seigneur, j'ai une situation lourde, j'en parle à des frères et sœurs, j'aimerais que vous puissiez prier pour moi, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse ? Alors, évidemment qu'on veut que la parole de Dieu oriente nos orientations, mais là, dans la Bible, il n'y avait rien qui opposait à l'achat de matelas. Donc ça allait, c'était bibliquement non mauvais. Mais juste pour dire que attendez-vous à une réponse, parce que parfois le chrétien peut prier et se dire, de toute façon rien va changer. Je vous invite ce soir là maintenant à prendre un temps de prière. Je ne sais pas quel est le domaine où vous avez besoin de la conduite de Dieu, l'orientation du Seigneur. Peut-être même juste un temps de restauration avec lui, une reconnexion avec sa personne. Connaissez-vous réellement Jésus ? Prenez ce temps avec lui. Et engagez-vous, engageons-nous à prendre des bons temps avec lui, des temps de louange, des temps d'écoute, des temps où on est avec lui tout simplement comme deux amis passeraient un tête-à-tête ensemble pour dire on est proches. Et soyez prêts à l'écouter de tout votre cœur. Seigneur Jésus, merci parce que c'est toi qui nous appelles à vivre proche de toi en toutes circonstances. Nous avons besoin de toi et je veux m'associer à mes frères et sœurs et en particulier ceux qui veulent se repentir cet après-midi, Seigneur. Qui reconnaissent que ils t'ont pas toujours mis à la première place. Ils ont parfois négligé de t'écouter, négligé de réagir en fonction de toi. Seigneur Jésus, tu connais ceux et celles qui, cet après-midi, veulent dire « Moi aussi, je veux m'arrêter devant toi et faire comme Marie, t'écouter et saisir la meilleure part. » Le privilège absolu et immense d'être en relation avec le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. D'être à son écoute et de recevoir la vie de lui. Avant même de m'affairer, avant même de m'engager dans des actions, je veux avant tout être sûr que mon cœur est connecté au tien. Être sûr que ma paix vient de toi, que ma joie vient de toi, comme on l'a pu le dire dans les open mic. Tu es celui qui réjouit nos cœurs. Et je te prie vraiment cet après-midi que si des gens se sont éloignés, que cet après-midi, ils se reconnectent à toi. Que si des gens ont négligé Christ, qu'ils te remettent premier, toi, l'autorité de leur vie. Nous voulons, éternel roi, proclamer que tu es notre chef absolu, toi qui étais tellement humble sur cette terre, mais qui finalement est le Créateur, le Tout-Puissant. Te demandons pardon d'oublier qui tu es, te demandons pardon de négliger ta personne même parfois dans nos vies. Et nous te demandons encore cet après-midi de nous aider à te remettre à ta place, toi le roi, et à de nous remettre à notre place, à tes pieds. Merci parce que rien dans nos vies n'est hors de ton contrôle. Et tu veux inspirer encore des hommes et des femmes qui ont besoin de toi cet après-midi, qui ont besoin de direction, qui ont besoin d'orientation, qui ont besoin de conseils, qui ont besoin d'assurance. Donne-leur cela cet après-midi, grâce à l'écoute de ta parole. Tu dis que tout pouvoir t'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tu nous encourages à aller faire de toutes les nations des disciples, les baptisant et leur instruisant à accomplir ce que tu nous as enseigné. Et tu nous dis que tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors donne cette assurance aux frères et sœurs qui viennent à toi aujourd'hui. Libère encore cet après-midi. Fortifie, guéris, pardonne au nom de Jésus. Amen.